J'ai fait moi, après j'ai fait ma mère, mon père, mon grand-père paternel, ma grand-mère paternelle.
Positive onde.
Mon grand-père maternel.
Une immersion proposée par Seb Dill.
Et là, après, tu vois, là, j'ai mes parents.
Oui.
Là, je suis partie sur la branche de ma grand-mère. Alors ça, c'était mon grand-père paternel.
Oui.
Voilà.
Donc, les arrière-grands-parents paternels.
Voilà. Okay. Et c'est là que je retrouve le Frédéric Butzberger avec mon arrière-grand-mère. Ça, c'est ma grand-mère.
Oui, avec couleur,
effectivement. Madeleine. Et, voilà. Et c'est là où on repart dans les collets.
Aujourd'hui, on se balade dans le temps qui passe, et on mène l'enquête. Enquête d'ancêtres.
Et donc là, j'en ai vu une qui est morte jeune, et là, voilà, je suis remontée à Murat Alexandre, Murat Jaco, je suis remontée là.
Okay.
Et là, j'ai pas.
Là, il n'y a pas.
Ça, donc c'est côté.
Et ça, on est en quelle période? Ah oui, on est bien après la Révolution.
Il faut que j'aille chercher là-haut. Okay.
Donc là, il faut vraiment remonter encore pour arriver à la Révolution française.
Ouais.
Donc Jaco Lambert et Jean Durbeau Clémentine. Et donc, pour filailler, effectivement, il faut regarder.
Je m'appelle Loïc Duchamp, j'ai 30 ans, donc je suis généalogiste professionnel depuis octobre 2019 et enquêteur génétique. Et je suis animateur depuis un an et demi du club Génardrome à Tournon-sur-Rhône.
La branche, la sève, le sang, la fleur, le fruit. Jolie généalogie. Longtemps, 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 jusqu'aujourd'hui.
La généalogie, c'est l'étude des histoires des familles et pour arriver à retrouver l'histoire de nos ancêtres et aussi repartir sur leurs traces. Donc il y a aussi la partie tourisme généalogique qui est un peu moins connue.
Je cherchais l'origine de ma maman puisqu'elle avait été placée petite. Donc voilà, on cherchait. Et puis ensuite, c'est une histoire en fait. C'est pas que des dates, c'est des histoires, ce qu'ils faisaient. Il y a leur métier, il y a toutes les naissances, tous les mariages, toutes les naissances. On se rend compte qu'il y a beaucoup de décès petits. Beaucoup de mariages, de remariages, de triple mariages. Et c'est une histoire, en fait. C'est des histoires qui sont racontées, en fait. C'est pas que des dates, en fait. C'est ce qui est intéressant, en fait, de savoir d'où on vient.
Alors, pourquoi on devient généalogiste professionnel? Déjà, c'est pour enquêter sur les secrets de famille, parce que c'est une partie importante de notre histoire. Et c'est souvent, justement, parce qu'il y a des morceaux de notre passé qu'on ne connaît pas. C'est souvent à cause de ça qu'on tombe dans la marmite de généalogiste professionnel. Et bien évidemment, il y a des dossiers qui m'ont beaucoup intrigué, des naissances sous X, des vols d'enfants, des trafics d'enfants, des fausses déclarations de naissance. Voilà. Beaucoup de dossiers depuis presque 5 ans maintenant. Depuis 5 ans, ouais, c'est ça.
Je suis ton père.
Là, la première chose, on va tous se remettre sur nos armes. Déjà pour commencer, et on va faire un petit peu psychogénéalogie, même si c'est pas le domaine du cours, mais on va en faire un tout petit peu par rapport au prénom. Et puis après, on va continuer à avancer. Le but, c'est que à la fin de l'année, donc en juin, on est vraiment fini, qu'on soit à la Révolution française pour toutes nos branches. Comme ça, on pourra présenter nos travaux à la fin.
Oui. Du côté allemand.
Du côté allemand, ça va être compliqué, mais on va pouvoir.
Quoique, je sais pas si je te l'ai dit, mais non. J'ai trouvé. Une dame,
ouais.
Un arbre,
ouais.
Où
il y a tout.
Il y a tout, non, mais il y a pas mal.
Après, à vérifier.
Oui, bah oui, mais justement, c'est le problème, oui. C'est comment je vais faire pour vérifier.
Mais oui. Bah après, est-ce qu'avec Family Search, tu arrives à retrouver des sources avec des
documents? Pour l'instant, je marque tout ce que j'ai trouvé.
Ouais, ok.
Et après, je ferai les recherches.
Ok, parfait.
Mais j'avais même envie d'écrire à la dame.
L'atelier du club Génardrome, donc il existe depuis. Janvier 2023, donc ça va faire bientôt un an et demi que ça existe. Il y a 8 personnes qui sont actuellement inscrites et ces personnes viennent toutes pour retrouver la trace de leurs ancêtres et pour découvrir des secrets de famille sur leurs ancêtres. Actuellement, nous sommes sur la partie raconter son histoire familiale. Donc on est sur la partie faire des recoupements pour voir s'il y a des erreurs dans leurs arbres, remonter au niveau de la Révolution française pour chacune de leurs branches et bien sûr de faire parler les photos de famille, les archives familiales. Donc on va aussi voir aujourd'hui la partie un petit peu psychogénéalogie sur l'histoire des prénoms. Comment les prénoms sont réattribués à certains ancêtres. Voilà.
D'où il est en Suisse, je me
souviens. C'était pas noté, je crois.
Parce que moi, on m'a demandé, donc il a fallu que je prenne toutes les actes de naissance. Donc, le mien, celui de ma maman, celui de mes, que j'ai pas connu en fait, que mes grands-parents.
Oui.
C'est pour ça que je les ai recherchés en... Et après, ben, il faut qu'ils me...
C'est quoi que tu cherches comme nom?
Moi, je recherchais Jeannin Keller aussi. Alors, meilleur.
Non, mais à Genève.
Mais, Jeannin.
J-A-N-I-N.
J-A-N-I-N.
Alors, on va regarder. J-A-N-I-N.
J'arrive pas.
Sachant que Jean Durbo, c'est quand même un nom relativement rare. Il n'y en a pas 10 000, quoi. C'est vraiment un nom spécifique des Vosges, à mon avis. Et Lambert comme prénom aussi, c'est pas très courant. Il n'y en a pas tant que ça. Non. Aujourd'hui, c'est plus un nom de famille chez nous. Dans notre région ici, c'est un nom de famille, Lambert.
Est-ce qu'il peut y avoir un glissement comme ça où des prénoms deviennent des noms de famille?
Bien sûr. Alors, souvent sous l'Ancien Régime. Ça arrive. Beaucoup de prénoms viennent de la mythologie grecque. Et en fait, beaucoup de nos ancêtres les reprennent au 19e et au 20e siècle. Ils reprennent parce qu'on revient dans le culte directement de la Grèce antique, du culte du beau corps, par exemple, de la beauté. Et beaucoup de nos ancêtres prennent des prénoms grecs pour nos ancêtres qui naissent début 19e et après début 20e. Et après, ça passe de mode. Et ça revient aujourd'hui, petit à petit, on a des prénoms grecs qui reviennent à la mode. Comme Athénaïs, par exemple. Athénaïs, aujourd'hui, on a des petites filles qui peuvent s'appeler Athénaïs. Une anecdote, il y avait une cliente qui avait sa fille qui portait le prénom de la sœur de Cléopâtre qui avait été assassinée, qui s'appelait Arsinoé. Et Arsinoé, c'est quand même très particulier à porter comme prénom, surtout qu'on est sur une princesse qui a été assassinée, et cette mère de cette petite fille, elle était historienne. On voit l'impact de la profession sur le prénom des enfants aussi. Ça, c'est intéressant à étudier.
Alors vous, de votre côté, vous en êtes où? À quelle période, là?
Tout dépend des branches que j'ai étudiées. Là, je vois, j'en suis à 1700, à peu près 1700. Donc là, je cherche, c'est du côté de Boussieu-Leroy. Et je suis très surprise, c'est la Drôme qui est allée chercher des filles du côté de l'Ardèche. Et là, je trouve quelque chose de très surprenant du côté... Je trouvais que chez mon mari et chez moi... Au niveau des enfants, il y avait des ressemblances physiques. Et je me disais, c'est pas possible, il doit y avoir une parenté. Et je trouve que ceux de la Drôme, ils sont allés chercher des filles en Ardèche. Et que ceux de l'Ardèche, ils ont trouvé des filles dans le même village qui s'appelle Étables, en Ardèche. Et là, je me dis, il faut que je cherche, ça doit être là le problème, dans les frères et sœurs, etc. Comme quoi, les ressemblances, elles ressortent bien.
Quelles sont les personnes qui font appel à mes services? Alors, c'est souvent des clients qui sont des seniors, mais ça peut être aussi des jeunes, puisque en fait, la moyenne d'âge, c'est 45-50 ans. C'est pas si vieux que ça, en soi. Et on retrouve de plus en plus de jeunes depuis la crise sanitaire, depuis 2020. Beaucoup de jeunes font appel à moi. Donc, ça peut être des jeunes qui ont des ancêtres en Italie, par exemple, comme ça a été le cas pendant 2 ans avec un client italien. Ou ça peut être un jeune, par exemple, en France, qui recherche l'histoire de sa famille par rapport à son nom de famille. Voilà. La doyenne de mes clientes, elle avait 94 ans, elle est toujours en vie. Je la salue d'ailleurs. Et la plus jeune de mes clients, il avait 20 ans.
À mon niveau, à moi, donc, mon beau-père est mort à Buchenwald. Je ne raconte pas l'histoire, mais voyez, je vois qu'il est mort le 31 mars à Buchenwald.
1944.
Ouais. Ma belle-mère, elle a... Ma belle-mère, vous voyez, elle est là, elle s'est mariée, vous voyez. Et elle était vosgienne et elle a rejoint la Drôme parce que elle s'est c'est au niveau de ses parents, je ne sais plus, tiens, voilà, c'est ça, Marie. Et donc, c'est une histoire aussi, elle est arrivée, elle habitait les Vosges, c'est les limites de l'Allemagne, vous voyez, envahie, etc. Ils ont fait connaissance, sont arrivés dans la Drôme, vous voyez, c'est tout lié, toute l'histoire, la petite histoire liée avec la grande, c'est vrai, qu'on voit très, très, très nettement là.
Le cœur de métier, alors c'est souvent dénicher des secrets de famille. C'est vraiment la passion du métier, c'est ça. C'est de trouver des secrets qui font que la personne aujourd'hui a des difficultés, par exemple, à retrouver ses parents biologiques, a des difficultés à retrouver un secret de famille, par exemple, quelqu'un qui a été dans un camp de concentration. On va enquêter sur cette personne. Et souvent, l'histoire de ses ancêtres, elle impacte notre quotidien aujourd'hui. Mais bon, là, c'est pas ma partie, c'est plus des collègues psychogénéalogistes qui pourront mieux en parler que moi.
Alors, tu cherches qui?
Je cherche cette dame-là.
Vert?
Vert, elle s'appelle Vert.
Ouais. Marie-Marguerite.
Oui.
Elle est mariée avec...
Elle est mariée avec Gaubert François.
Okay.
Et je cherche sa date de décès.
Alors, sa date de décès...
Ok, un petit...
Alors, j'ai son fils. J'ai un... Non, ça doit pas être ça. Gaubert François, attends.
Gaubert François et Marie-Marguerite
Vert. Vert, ouais. Et ils sont mariés où, tu sais pas?
Si, mariés à Chantemerle.
Ah, bah dans la Drôme, ok.
Ouais,
effectivement, il n'y a pas son décès sur Jeannette. Elle est née en 42, donc elle peut être morte maximum en 1942. Donc elle peut être sur les tables.
J'ai certainement cherché, hein, ça date un peu, mais je trouve qu'il y a le
trou. Leur mariage, ils sont mariés en 68 à Chantemerle, ouais, c'est
ça. Oui, c'est ça. Et là, il y a un trou, tu vois, regarde, je n'ai pas... Alors c'est...
On va regarder
c'est
sur
dommage, c'est que de... c'est très proche en 1842. Et j'ai eu du mal à trouver,
Donc là, on est dessus.
J'ai dû chercher tout, dans tous les petits villages, là, mais...
Marie.
Ah, mais tu cherches sur Généanette, là.
Ouais, et Philae aussi.
Philae, oui. Mais Généanette,
mais ils ont leur enfant à quel âge? Là, il est né quand, lui?
65. Il est né en 1875.
À son mariage, est-ce qu'ils sont en vie? Alors, lui, il est mort déjà. Le père, il est décédé en 98, 1898.
Alors, tu veux voir lui,
oui.
Vincent?
Oui.
Mon grand-père, ça.
Il est... Est-ce qu'en en 1900...
Il est né à Chantemerle.
Voilà. Et est-ce qu'en 1902, elle était en vie? Ça qu'il faut vérifier. Tu l'as, l'acte de mariage avec Marie-Blanche Demeure?
Demeure, oui.
Ouais. Tu l'as? Normalement, il est en ligne sur Saint-Vallier. C'est... On a de la chance, les archives de la Drôme ont numérisé jusqu'en 1923 en ligne. Donc on a des archives qu'on a à disposition directement sur le site des archives départementales de Valence. Alors ça, c'est les tables décennales de Saint-Vallier. Et je pense que c'est, on est juste avant la Première Guerre mondiale. Peut-être qu'ils ont subi quelque chose. Il y a eu un incendie ou un bombardement. Parce que là, les actes, ils sont... Mais ça, c'est que les tables. Ah oui, il n'y a que ça comme table. Alors attends, on a dit qu'on cherchait vert, hein. Donc vert, comme on doit chercher vers la fin du registre, parce qu'on est sur les V. Marie,
Marguerite.
On est sur Véro, Florence, Philomène. Vert, Marie-Annette. Attends, je regarde. Véro, Vert. Marie-Joséphine, Catherine, Véro.
Marie-Marguerite.
Elle n'y est pas sur... elle n'y est pas sur la décennie jusqu'en 12. Elle est peut-être morte après. Elle est née en 42, hein, donc quand même.
1902, non, c'est pas ça.
Oui, sauf que là, je l'ai fait 1902.
Après 1902.
Donc là, maintenant, c'est après 1913. Parce que là, on vient de vérifier la table et elle n'était pas présente dans la table jusqu'en 1912. Donc elle est forcément décédée après ou sur une autre commune. Dans ce cas-là, on regarde pas la bonne commune. Est-ce qu'il y existe en fait des endroits en France où on ne peut plus retrouver d'archives à partir d'une certaine période historique? Oui. Tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de bombardements dans la Marne, dans la Meuse. C'est des régions qui ont pas mal été impactées par les conflits, donc la guerre 70, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et même les guerres antérieures. Donc il y a beaucoup de lacunes sur ces départements-là. Par contre, ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas remonter. On peut remonter par les actes notariés, encore faut-il qu'on les retrouve.
Donc il faut chercher dans d'autres communes, ouais. À la Beuglette, comme ça.
Ah ben là...
Toutes les communes environnantes.
Toutes les communes où elle a vécu.
Et à l'hôpital, parce que...
Ben c'est ça, c'est ce que je me dis, Saint-Vallier, c'est l'hôpital pour moi. Vert, tu vois, là on est sur Vert.
Il y a une Vert.
Ouais, mais c'est pas Vert Joseph-Émile, c'est un garçon, il n'y a que lui. Donc après, encore...
Bon, eh ben, tu cherches plus...
Si, attends, regarde. Pas fini encore. La dernière table, c'est celle-là. Et après, tu seras obligé de demander à la mairie.
Ok.
Donc là, on va vérifier la dernière table.
Saint-Vallier. Oh, c'est bien écrit, grave.
Ouais, là, tu vois, c'est fait avec l'informatique. Vert, Émile, Jacqueline, René, Jacques.
Saint-Vallier, pas.
Non. Ce qu'il faudrait vérifier
donc,
aussi.
Je vais chercher dans les d'autres communes.
Non, tu peux demander à la mairie de Saint-Vallier et tu regardes dans d'autres communes aussi. Mais ce qu'il faudrait vérifier aussi, c'est si on la retrouve sur un recensement. Attends, Vert Marie-Marguerite.
Le recensement.
Ouais, le recensement, c'est
tous
important.
Tous les combien on a des recensements? Tous les 4 ans?
Tous les 4 ans, ouais. Là, ça passe de 1912 à 1921, les recensements à un moment donné, comme il y a la guerre entre temps. Donc là, on sait qu'elle est vivante en 2. Donc là, on va faire recensement, on va mettre Saint-Vallier. 61. Ah, elle est née en 61? Vérifie si c'est ça.
Mère, elle est née en 42.
Je pense pas que ça soit la même. Hein. J'en ai une qui est née en 50 à Cheminard. 43. Arras, ça doit être elle peut-être. Née en 43, t'as dit 42? Ouais, mais bon, ça a un an près.
23 janvier.
Alors voyons voir. Vert Marie, Séchera. Toute seule. Elle vit toute seule.
C'est près des tables. Hein, c'est
Marie veuve.
Marie-Marguerite. Marie-veuve.
Oui, donc ça peut être elle. Et si, ça peut être elle, parce qu'elle est veuve de Gobert.
Oui, je suis bien d'accord.
Mais donc ça pourrait être elle, parce qu'elle est née en 43. Il faut vérifier quand même. Hein.
Écoute, je vais vérifier, tu vois, que ça n'était pas simple. Je suis contente de moi parce que je n'ai pas trouvé.
Bah oui, écoute.
Et tu vois qu'il a beaucoup de mal quand même, c'est pas facile. Hein.
Mais c'est parce que c'est pas en ligne surtout. Si c'était en ligne, on le trouverait plus facilement. Là, regarde, 1842, on va remettre ça. J'en ai une à Larnage en 1906, attention, ça peut être elle par contre. Larnage, c'est pas loin de Saint-Vallier.
Non, ça peut être aussi.
Et table.
Ah tiens, voilà, Gobert Eugénie.
Ben voilà, c'est elle.
Attends, oui, Gobert Eugénie, c'est la...
Sa femme.
Non, c'est pas sa femme.
Mais non, mais à Duroche. C'est la femme de Durocher.
C'est ça.
Donc,
eh ben, c'est la jumelle, ça.
Donc c'est elle.
Ça, c'est la jumelle.
Et ben là, elle est vivante en 1906 à Larnage, tu vois.
À Larnage.
Voilà, donc il faut chercher sur Larnage.
Eh ben, je vais chercher sur Larnage.
Comment on arrive à retracer la vie d'une personne? Alors non, il n'y a pas de cas type, effectivement, il n'y a pas une Bible qui fait que ça marche pour tous de la même façon. Par contre, le béaba, c'est déjà de retrouver la filiation par les actes simples, donc les actes de mariage, actes de décès, actes de naissance. On a souvent du mal à retrouver le décès d'un ancêtre. Alors souvent parce qu'en fait, ils ont bougé, et souvent aussi parce que ça peut être des personnes qui ont pu mourir dans le total anonymat. Ils ont pu disparaître sans laisser de traces. Donc après, on peut les retrouver à l'autre bout de la France ou même à l'autre bout du monde aussi, ça arrive. Et on peut retrouver par exemple un ancêtre marin qui est mort en Nouvelle-Zélande en étant parti de Marseille.
C'est ça, j'ai fini à Étable.
Et bah donc celle qu'on a trouvée là...
Elle est bien née en 42.
Ouais, mais celle qu'on a trouvée là, elle, sécheresse, c'est à côté d'Étable.
Oui.
Ça pourrait être elle qui soit partie. Elle serait partie vers son lieu de... Mais Arras, ça fait loin quand même.
Oui, ouais, quand même. Arras, c'est dans l'Ardèche, et là, ah oui, et sécheresse aussi.
Tu vois, c'est pas très très loin en soi. Donc ça pourrait être elle qui... Ça voudrait dire qu'elle est encore vivante en 1921. Donc il y a deux pistes à explorer. La première, c'est celle qui est la plus sûre, c'est elle. Parce que là, on est sûr qu'il y a l'affiliation avec Gobert. Parce que c'est bien marqué la belle-mère de Durocher. Donc la mère de Gobert Eugénie, ça c'est bon. Par contre, celle de 21, elle est toute seule, donc il n'y a pas de filiation. Donc on va vérifier ça, donc il faut aller sur Larnage, tu vois, donc hop, on se met dessus. Les tables décennales, elles vont jusqu'en 32 sur les archives de la Drôme, pour information. Donc là, on va aller voir jusqu'en 32 sur Larnage. Table décennale. Marie-Marguerite, tu vois, elle est là.
Alors, où elle est?
Elle est là.
Oh là 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 là.
6 janvier 1921, elle est morte. Donc maintenant, on peut vérifier s'il est en ligne, là, que normalement, il doit y être.
Et à quel endroit elle est morte, alors?
Ah bah là-bas, à Larnage, du coup.
À Larnage, bon, bah je vais vérifier.
Attends, non, mais regarde, on va la voir tout de suite, ça va être même plus simple. Bon, comme ça, on va jusqu'à la fin avoir la clôture de l'enquête. Hop, on va regarder. Bah non, donc là, on est sur les actes de décès de 22, donc on a dit 21, donc c'est avant. Bah ça.
Chez sa sœur. Non, chez sa belle-sœur.
Sa fille, tu veux dire.
Sa fille.
Oui, c'est ça, exactement.
Ah oui, c'est ça.
Mais souvent, d'ailleurs, les mères meurent chez leur fille, effectivement. Ou leur fils, ça arrive aussi.
Oui.
Mais c'est rare, mais ça arrive.
J'ai vu aussi.
Vert, elle est là. C'est la première, c'est l'acte numéro 1 de l'année.
Oui, 6 janvier, bien sûr.
Mais oui, c'est l'acte. Oui, c'est elle. Hein. Oui, c'est sa fille de Romain Vert et de Marie-Marguerite Marc. Bah voilà, tu l'as. C'est bon. Bien sûr, ouais.
Voilà. Ouf, ouf.
Tu vois, une enquête qui se résout comme ça directement par des recoupements, en fait. On a passé par Genanet, on est passé par les archives, on est passé par Philae, par le recensement, on arrive à retrouver qu'elle était à Larnage. Après, on regarde l'étape décennale et on arrive à retrouver son décès. C'est un travail de patience et c'est un puzzle, en fait, qu'on reconstitue. Ça, qui est
ça
bien.
C'est le travail typique là, du généalogiste. Ouais, hein.
Totalement, exactement.
Parce que nous,
et ça, imaginons que c'était pas en ligne. Bah, tu prenais beaucoup plus de temps, il fallait que tu tapes tous les registres en mairie. Et voilà, c'était super long.
Oui, 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 c'est bien ça, vous avez bien entendu. On vient de vivre en direct le dénouement d'une enquête.
À partir de quand on retrouve les premières traces d'actes? En fait, on les retrouve dès l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui a été ordonnée par François Ier au XVIe siècle. Et donc c'est les premiers registres paroissiaux qui existent, donc c'est vers 1550 à peu près. Et on retrouve donc des actes paroissiaux, mais tous les départements n'ont pas des actes aussi vieux. Comme on parlait de la Marne, la Meuse par exemple tout à l'heure, avec, ou la Moselle également, on ne peut pas remonter aussi loin avec les actes paroissiaux. Donc il faut passer par les actes notariés. Donc qu'est-ce qu'un acte notarié? Un acte notarié, c'est un acte qui est fait par un notaire qui stipule un contrat de mariage, un testament, une hypothèque, un inventaire après décès. Voilà, tout ce qui est en lien avec les biens d'une personne.
Mais là, je cherche quoi alors?
Magan.
Je cherche Magan.
Ouais. Sauf si tu l'as noté Néré dans le...
Antoinette Magan.
Oui. Oui, souvent, il faut faire attention parce que les noms de jeunes filles, beaucoup mettent le nom du mari. Et après, du coup, ça fait des faux arbres parce que bah, on va avoir toujours l'ascendance avec un faux nom. Alors qu'il faut toujours prendre le nom de jeune fille pour l'épouse. C'est pas pour rien qu'elles sont nées avec un nom. Donc,
oui, parce qu'après, on se dit c'est son mari entre cousins. Ouais.
Par contre, ça arrive que sous des décès, si la personne ne connaît pas le nom de jeune fille de la personne et qu'elle meurt dans des circonstances un peu étranges, eh ben, elle meurt avec son nom de mari. Et on ne connaît pas le nom de jeune fille. Et là, il va falloir fouiller pour trouver le mariage, pour savoir quelle était l'épouse de un tel.
Hop, 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 hop. Moi, j'en viens 10 secondes en arrière. C'est quoi mourir dans des circonstances un peu étranges? Parce que ça m'intéresse, là.
Mourir, bah, on a souvent dans les faits divers, bah, mourir par meurtre, mourir par une disparition. Par exemple, on a retrouvé en Ardèche, à Saint-Agrève, un corps d'un homme qui était disparu depuis 15 ans et il avait été enseveli dans la glace. Et du coup, un jour, ils sont tombés sur son corps. Ah bah tiens, ça y est, on l'a retrouvé. Et il n'y avait pas l'ADN à l'époque. Et forcément, bah, ils ont juste vu par rapport à les ressemblances physiques que c'était bien la personne qu'ils recherchaient. Et donc ça, il y avait un article de presse qui le mentionnait. Voilà. Il y a ça, il peut y avoir aussi des colporteurs parce que beaucoup d'ancêtres bougeaient parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Et les colporteurs, ceux qui bougeaient de ville en ville dans toute la France, eh ben, on peut les retrouver décédés avec une fausse identité, par exemple. Parce qu'ils font aussi des fois des voleurs. Donc c'est pas forcément évident des fois de retracer la vie de certains ancêtres. Et puis les condamnés, on retrouve des fois leur jugement en série U. La série U, c'est la série de justice. Et la série B, c'est la justice sous l'Ancien Régime, pour information. Voilà.
Loïc, avec qui nous sommes aujourd'hui, a aussi sa propre émission de radio.
Alors l'émission, elle existe depuis 2020, depuis novembre 2020. Et la toute première émission, c'était donc sur les traces de Jean-Louis Benjamin Goudard, le premier soldat tué à Forbach lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Et c'est un article de presse qui m'avait fait me mettre sur ses traces. Et j'avais découvert qu'il était natif d'Annonay.
Sur les traces, c'est l'histoire de... Direction Annonay. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces et l'histoire du soldat Jean-Louis Benjamin Goudard, premier soldat tué lors du conflit franco-prussien de 1870. C'est en effet à Annonay, plus grande commune de l'Ardèche, située dans le...
Et après, il y a plusieurs thématiques. On a fait la chasse aux sorcières. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des thématiques avec des invités et des thématiques où c'est vraiment un sujet que je menais de fond en comble tout seul.
J'ai payé Philae, je l'ai plus.
Alors, comment ça? Alors ouais, déjà, faut connecter
Philae. Qu'est-ce que c'est? Moi, ça m'intéresse.
Alors, Philae, c'est un site de généalogie qui est un peu comme Généanet. Et Stéphane Bern, c'est l'ambassadeur de Philae, du coup.
Ah ouais?
Oui. Ouais. Oui, il passe souvent, il passait à la télé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs.
Et ces sites, c'est des sites payants ou gratuits?
Alors, Philae, c'est un site payant.
Je suis pas en
Philae, on peut faire son arbre gratuitement dessus, mais par contre, on n'aura pas des correspondances comme on peut avoir pour plus facilement pour remonter. C'est comme Généanet, avant, il y avait la possibilité d'être parrainé, et depuis peu, on ne peut plus être parrainé sur Généanet, il faut payer. On a un site qui existe depuis 2020, je dirais, Matchid, qui est directement un index de tous les décès en France survenus, des personnes qui sont nées en France ou nées à l'étranger et mortes en France. Donc ça peut être dans les deux sens. Il y a 27 millions de décès depuis 1970 qui ont été indexés. Donc c'est les statistiques de l'INSEE qui sont recensées chaque année. Et il arrive certaines fois que certains clients, ou même pendant le club Généadrome, il y a parfois des personnes qui sont décédées entre 70 et aujourd'hui, qui ne sont pas dans la base. Elles ont été mal déclarées à l'INSEE, et elles ne sont pas dans la base de l'INSEE du coup. Donc on les trouve autrement.
J'essaye de retrouver les actes, parce qu'en fait il n'y a pas les actes.
Ah oui, bah oui.
Donc j'ai les dates, mais j'ai pas les actes.
Bah ça, du coup, il faut que tu ailles sur les archives directement, ouais. Donc de la Loire, c'est ça?
Là c'est du...
Non, c'est l'Isère, ça. Ouais, c'est l'Isère.
Okay. Après, le problème, c'est qu'il faut déchiffrer, quoi.
Ouais, mais après, ça va. En soi, là, c'est bien écrit. Il faut savoir que l'étude des anciennes écritures, c'est ce qu'on appelle la paléographie. C'est qu'on arrive à lire, en fait, les anciennes écritures des notaires et puis, bien sûr, des prêtres, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le même degré d'instruction. Et il y a certains prêtres qui écrivent très, très bien. Il y en a d'autres qui écrivent phonétiquement. Et il y en a d'autres qui écrivent vraiment comme des pharmaciens, quoi. Voilà.
Donc en fait, quand on part dans l'étape décennale, par exemple, là, ils mettent 1802-1952.
Sur quelle commune?
Sur les Vosges.
Oui.
1802.
Alors là, les tables décennales de Taron, elles vont jusqu'en 1892, elles ne sont pas après. Donc si il est décédé après 92, on ne les a pas en ligne, ça veut dire qu'il faut demander à la mairie de Taron, qui regarde sur les tables décennales, quand il est décédé Lambert Jacot. Parce que pour l'instant, il est pas...
Et Lambert Jacot, c'est le père de Marie-Zoé,
oui,
Jacot.
Oui. Quelle est la demande la plus difficile qu'on m'ait confiée? c'est les demandes d'enquête données sous X, les enfants qui n'ont pas de racines en fait. Parce que c'est la génétique qui va prouver directement bah, la filiation. Il faut savoir qu'en France, en plus, on a une réglementation qui fait que les tests ADN sont interdits sur notre sol. Donc on passe par l'étranger. Donc souvent, c'est des clients qui habitent en Belgique, au Luxembourg, ou qui habitent en France, mais qui font leurs tests à l'étranger. Voilà. Et ça peut être très très long, ça peut durer des mois comme des années. On peut arriver à toucher du doigt un parent biologique. On peut arriver à trouver les parents biologiques, mais ce n'est pas systématiquement le cas. Tout dépend si le match est important ou pas. Quand je dis match, ça veut dire correspondance.
Évidemment.
Alors, il y a deux mariages. Il y a leur même mariage à Tillot.
Et je pense qu'eux, ils étaient protestants.
C'est possible. Mmh. Ça peut être intéressant. On peut retrouver des fois deux mariages, un mariage protestant, un mariage catholique. C'est possible que du coup, ils ne soient pas mariés dans la même commune.
Il y a Tillot et Vanier. Donc, parce que chercher... Vanier, il y en a. La Marie-Zoé, elle est née à Vanier.
Le 11 février 63. Ouais, elle est née pas loin après le mariage. En
mais
fait.
Pourquoi ils mettent Clémentine en dessous? C'est qui? C'est la fille?
Non, c'est elle.
Jean des Bois, Marguerite, Clément. Ah, elle s'appelle Marguerite Clémentine.
Oui, elle se fait appeler Clémentine, c'est son deuxième prénom. Prénom usuel, c'est souvent le deuxième ou troisième prénom de nos ancêtres. Alors que nous, aujourd'hui, notre prénom usuel, c'est le premier prénom. Ça a changé. Non,
rien n'a changé. Si, on vient de le dire, ça a changé. Suivez, s'il vous plaît.
Donc l'avantage, c'est qu'avec ça, je peux retrouver mes arrières.
Voilà.
Arrière-grands-parents.
Donc alors 5 heures après-midi, rue Kléber. Hein,
Jacques Janin,
enfant du sexe masculin, fils de Jean-Pierre Janin,
âgé de 30 ans. Donc maintenant, je vais pouvoir retrouver...
Et de Louise Roman. Roman. Sa femme, âgée de 38 ans. Tous deux épiciers et domiciliés à Genève. Voilà.
D'accord.
Nous, Jean-Jacques, moi...
Ouais, donc moi, c'est là que je vais pouvoir...
Donc,
il avait 30 ans en 1870.
Ah là, il avait 30 ans en 1870.
Donc, il est né en
1840.
Il existe une formation pour être généalogiste professionnel, c'est la formation à Nîmes et celle du Mans, le DU Généalogie Histoire des Familles. Elle se passe sur 9 mois et après, ça nous permet d'avoir un diplôme universitaire qui nous permet d'être généalogiste familial. Et il existe deux branches de généalogistes, il existe la branche familiale et la branche successorale. C'est bien différent. Par contre, on fait les mêmes recherches, on fait des recherches pour les ancêtres des clients, mais on doit trouver la descendance pour des recherches successorales, et pour les recherches familiales, on doit remonter le plus loin possible.
J'espère qu'avec ce court temps passé sur un atelier, vous en savez plus, un petit peu plus sur la généalogie. Merci beaucoup à Loïc Duchamp, généalogiste, pour l'accueil, ainsi que toutes les personnes rencontrées sur cet atelier.
Il est passionnant parce qu'on dit un truc et il va nous les chercher, il nous retrouve tout, c'est fabuleux en fait. C'est des belles découvertes.
Il existe plusieurs possibilités de faire des recherches. Les premières, c'est déjà de demander à des proches d'avoir des documents familiaux, style acte de naissance, faire part de naissance, anciens journaux. Et après, c'est de regarder directement sur les archives en ligne pour continuer à avancer les recherches. Et bien sûr, les recherches sur place aux archives départementales ou archives municipales. Et les archives nationales si on a des gros dossiers, par exemple.
Merci pour leur participation musicale involontaire à Batlick, William Scheller, Les Poppies. Il y avait aussi un court extrait du film Star Wars. Musique additionnelle, John Bartman.
Combien de personnes en France aujourd'hui sont généalogistes professionnels? On estime qu'il y a environ 400 généalogistes familiaux professionnels. Et il y a aussi des généalogistes successoraux, mais là je pourrais pas vous dire un chiffre. Mais la branche de généalogiste familial, c'est la branche de généalogie pure. Et c'est celle sur laquelle on travaille au sein du club de l'atelier Génardrome. Le site de mon étude, c'est duchampgenealservice.com et ma page Facebook, Loïc Duchamp Généalogiste.
Positive Onde.
Sur votre radio préférée, puis en podcast sur toutes les plateformes. Info sebdihl.fr, sebdil.fr.
C'est fini.